Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interview pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Sarah Andelman. Elle est la cofondatrice de Colette et la fondatrice de l'agence Just an ID. Dans cet épisode, Sarah revient sur sa vie avant, pendant et après Colette. Elle nous explique ce qui fait qu'un produit a de l'intérêt, comment elle travaille, son processus. On parle de communication de mode, du futur des multimarques, de online shopping, de sustainability et on parle de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Sarah, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Sarah Andelman. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Est-ce que je peux demander de vous présenter avec vos propres mots, s'il vous plaît?
Alors, je m'appelle Sarah, je me suis occupée du magasin Colette pendant 20 ans et depuis un peu plus d'un an, j'ai lancé ma propre agence Just an ID.
D'accord, très bien. Et ma deuxième question en général, c'est de demander aux gens de se présenter, de reprendre leur parcours depuis leur plus tendre enfance, s'ils pensent que c'est nécessaire. Mais moi, j'aimerais bien savoir plus un peu plus sur votre enfance, qu'on sait beaucoup de choses sur Colette, etc., mais pas avant, ce qui s'est passé.
J'ai grandi juste à côté de Paris, entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Mais je venais régulièrement à Paris les week-ends, puisque ma mère travaillait ici. Et vers l'âge de 15 ans, j'ai déménagé à Paris, fini mes études, commencé l'école du Louvre avec l'histoire de l'art et la Sorbonne jusqu'à ce que je me perde trop dans les couloirs. Et on a déménagé dans l'immeuble où a ouvert Colette, et en passant devant cet espace vide, j'étais toujours à l'école du Louvre, j'avais à peine 20 ans, même pas 20 ans quand on a ouvert, et on s'est lancé dans cette aventure.
D'accord.
J'ai fait quelques stages dans des galeries, des magazines avant qu'on ouvre, ouais. mais c'est parti très vite. Ouais.
Et cet intérêt pour la mode, le design, l'art, c'était vraiment quelque chose qui était ancré en vous depuis le début, ça vient de quoi?
Oui, je pense que j'ai toujours été curieuse et toujours eu beaucoup de plaisir à visiter des expositions ou à faire des magasins, à regarder ce qui se passait autour, à regarder des magazines. Oui, j'ai toujours été assez curieuse.
Ouais, d'accord.
Aussi bien de cinéma, de musique. Je me souviens que les années avant le bac, je faisais plein de choses plus que je ne fais aujourd'hui. Je pense que je découvrais la création dans toutes ses formes.
D'accord, ok. Et qu'est-ce qui vous inspirait à l'époque? De quoi vous êtes nourri toute votre enfance? Et moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est toute la dimension avec votre maman. Est-ce que vous l'avez toujours suivie? Est-ce que elle, la mode, c'était quelque chose qui était déjà très présent avant d'ouvrir Colette? Parlez-nous de tout ça.
Alors, pour ma mère, c'était plus que la mode. Je pense que c'était le commerce qui a toujours fait partie de sa vie. C'était rendre service, faire plaisir, faciliter la vie des gens. Ouais. Et donc, elle était dans la mode, mais dans un autre réseau de distribution, on va dire. Mmh. Et on a toujours été très complémentaires. Et de mon côté, la question déjà.
Qu'est-ce qui vous a influencé, inspiré, etc.
Des expositions, des magazines, des. C'est amusant parce que je pense que c'était un monde qui me paraissait très loin et finalement dont je me suis rapprochée petit à petit. Maman était pas dans la mode ou dans au sens créatif tel qu'on pourrait le croire aujourd'hui, c'était plus...
était plutôt dans le commerce,
oui,
c'est ça.
Oui, exactement. Hein.
Exactement. Et qu'est-ce qu'elle faisait exactement avant?
Elle avait un magasin dans le santé.
D'accord, ok.
Et elle avait déjà une sélection très remarquée à l'époque, et bon, il faut se replacer avant toute la grande distribution.
D'accord. Parlons un peu de Colette, même si on connaît déjà pas mal l'histoire, comment ça s'est créé, comment ça a explosé. Enfin, on a toujours l'impression que ça a été un succès fulgurant dès le départ, mais je pense pas, je crois pas. En général, ça se fait pas comme ça, ça se fait petit à petit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différents milestones et comment vous expliquez le succès qui est arrivé, je sais pas à quel moment d'ailleurs, parce que, enfin, moi j'étais né, mais j'étais pas si vieux que ça et je m'intéressais pas encore tellement à la mode.
Effectivement, ça n'a pas été fulgurant dès le départ, mais je pense que quand on a ouvert, Paris était un petit peu au creux de la vague. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Londres, à New York, et c'était un petit peu un objet de curiosité. On a ouvert dans ce quartier qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, qui était un peu à l'intersection entre le luxe, Faubourg Saint-Honoré plus haut et les Halles de l'autre côté. Et je pense qu'on a ouvert, c'était plus un sujet en se demandant combien de temps ça allait tenir. Les personnes n'y croyaient pas trop. Et effectivement, pas répéter, mais bon, le point de départ était de réunir des produits qu'on aimait dans différents domaines, de créer un lieu de vie. Et petit à petit, je pense, le fait que ça se renouvelle régulièrement, qu'on apporte des nouvelles marques qu'on trouvait pas ailleurs, qu'on apporte des produits exclusifs et un mélange un petit peu inédit, a fait que petit à petit, je pense que ça, l'adresse s'est confirmée. C'est devenu plus compréhensif. Il y a eu des moments clés, comme quand on a descendu tout ce qui était livres, culture, qui était à l'ouverture sous la galerie. Ça a permis d'avoir, je pense, de moins faire peur. On entendait beaucoup, quand on a ouvert, il y avait beaucoup de design au rez-de-chaussée et c'était un peu muséal. Et je pense qu'il y a eu un moment où les gens se sont dit, oh ben, finalement, on peut rentrer. C'est un endroit comme un autre.
Ouais. Et ouais, les différents milestones, je demandais les différents, vraiment le moment où ça a explosé, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment ça a eu lieu ou ça a été vraiment très croissant?
J'ai une très mauvaise mémoire, donc je peux pas bien vous répondre. Il y a eu des grands succès très différents les uns des autres. Ça peut être un petit gadget au rez-de-chaussée, comme là je disais des articles sur les 20 ans du sac baguette Fendi. Bon, c'était un produit qu'on avait parmi d'autres, mais voilà, on avait les listes d'attente ou évidemment des lancements de baskets. On était les premières queues, c'était inattendu. Après, plus récemment, le lancement de l'Apple Watch nous a permis de toucher encore d'autres communautés. C'est petit à petit, il y a eu des grands rendez-vous, des produits très attendus et petit à petit, on s'est fait connaître, que ça soit dans la communauté mode, design, même restauration avec des choses Waterberg, dans l'art, la photo avec la galerie. Donc petit à petit, je pense qu'on a eu, on s'est fait connaître, on va dire petit à petit, et le fait qu'on se renouvelle en permanence a suscité, je pense, une espèce de fidélité, un intérêt suivi.
Et cette obsession d'être à la fois pointu et accessible à tout le monde, ça vient de quoi?
Ça vient de nous-mêmes, je pense, de nos personnalités. Depuis le départ, c'était surtout pas d'être fermé, mais au contraire d'être très ouvert. Ça s'est pas perçu au départ à cause, encore une fois, de ce display où chaque objet était mis en valeur et ça pouvait avoir une approche qui faisait plus peur que d'attirer. Mais effectivement, moi, je me souviens que je répétais toujours quand on me disait, oh, tout est cher. Mais non, regardez, on a un petit élastique à 1 franc. Quand on a ouvert, c'était encore les francs. Ouais. Et des bonbons, aussi bien qu'un très bel objet de luxe, parce que c'est ce qu'on aime.
Et ça, par exemple, les petits objets à 1 franc, c'est arrivé un petit peu plus tard.
Dès le départ. On regroupait tous les produits qu'on aimait. Et effectivement, il y avait cette immense fourchette de prix dès le départ.
D'accord, ok. Alors, moi, enfin, vous êtes une des personnes que je croise tout le temps, partout, dans tous les showrooms, etc. Je suis impressionné par. Peut-être que je dis une bêtise, mais vous êtes curieuse de tout, vous allez tout voir. Et souvent, quand je croise des jeunes designers, des petites marques, etc., ils disent ouais, Sarah est passée. Et ça paraît toujours assez dingue. Pourquoi, enfin, pourquoi ça paraît, c'est une question bête, mais pourquoi cette obsession d'aller tout voir tout le temps?
Bah, pour ne pas rien manquer. J'ai toujours peur de passer à côté de quelque chose et ouais. J'ai envie d'être surprise, j'ai envie d'avoir cette émotion quand on découvre quelque chose de révolutionnaire, c'est un grand mot, mais quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose qui allait compléter notre offre, et c'est la moindre des choses, entre guillemets. Je me sentais d'une mission de faire découvrir à nos clients, à notre équipe, ce qui allait être excitant aujourd'hui et demain.
Mais ça n'a pas arrêté, vous le faites toujours.
Différemment, je suis dans un autre rythme, de pas faire des achats pour un magasin, de pas avoir cette course de showroom effectivement ou de salon. Aujourd'hui, oui, ça m'intéresse toujours, mais c'est notre approche.
C'est différent, c'est une approche un peu différente. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un produit a de l'intérêt? Qu'est-ce qui fait qu'un produit est super excitant?
Je pense qu'il apporte quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est très, 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 très difficile. Moi, je suis impressionnée par rapport aux créateurs aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est déjà fait dans le passé. Je comprends qu'on puise dans le passé, mais d'apporter une nouvelle touche, une modernité, quelque chose qui est désirable aujourd'hui. Mais après, c'est très subjectif et impalpable.
Ouais. Et c'est inexplicable, en fait. Oui. Et c'est très instinctif, donc, c'est-à-dire que vous avez toujours fait les achats vous-même, vous les avez jamais sous-traités à qui que ce soit, parce que c'est tellement personnel comme truc.
Oui, c'était important aussi pour nous d'avoir une uniformité. Même si on travaillait avec des marques très différentes les unes des autres, il y avait un espèce de fil rouge qui reliait l'ensemble, une certaine cohérence. Et effectivement, c'était important pour nous de concentrer les achats. Mm-hmm.
S'il y a quelques grands coups de cœur ces 20 dernières années que vous avez eus, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous ont marqué?
Trop, parce que bon, je dois être très bon public, et donc je ne peux pas en citer que quelques-uns. Ouais. Et il y a régulièrement des coups de cœur. Oui.
Pendant toutes ces années, vous avez vu des gens défiler, plein de créateurs, de designers, de gens très talentueux. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui restent et qu'il y en a qui disparaissent?
Savoir se renouveler, je pense. Savoir suivre l'air du temps, ne pas s'enfermer dans quelque chose. C'est normal, c'est fort d'avoir sa propre identité, quelque chose qui vous démarque, mais ça peut pas être la même chose de saison en saison. Il faut le faire vivre et je pense que c'est très difficile.
Mais vous l'avez fait avec Colette, vous avez réussi à vous renouveler en permanence.
Oui, on se remettait en question en permanence. C'est pas parce que ça marchait qu'on se disait oh, ça va marcher tout seul. Ouais. Et c'était sans arrêt des remises en question sur l'offre, mais aussi sur le magasin lui-même, une réorganisation, un endroit où présenter les produits, une lumière. C'était sans arrêt revu et corrigé.
Mais comment on garde cette humilité? Ça vient de quoi d'ailleurs? De dire ok, je me remets en question systématiquement.
Pour nous, c'était naturel, donc je ne sais pas l'expliquer. C'est
partie de l'ADN de la famille.
Oui, c'est, je pense, une recherche de perfection, une obsession de dire que la perfection n'existe pas et on peut toujours faire mieux.
Alors, Justin Heidi, expliquez-nous la naissance du projet, d'où ça vient. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est après avoir fait un succès aussi colossal avec Colette, enfin, vous aviez pas peur de vous relancer dans un nouveau truc, qu'on vous attend au tournant, etc.
Alors, comme d'habitude, je ne réfléchis pas trop, tout va très vite. On a fait l'annonce de la fermeture au mois de juillet et aussitôt, des différentes marques avec qui je travaillais m'ont sollicité. Mmh. Et avant même que je puisse bien réfléchir, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je devais faire, les projets que ces marques me proposaient m'intéressaient, mais je leur disais, je ne ferai rien tant qu'on ne ferme pas le magasin en décembre. Mmh. On a fermé en décembre, en janvier, j'ai commencé à faire les rendez-vous et tout de suite, me suis plongée dans ces différents projets qui me parlaient, que ça soit aider sur des développements de collaboration, aider sur des pop-up. J'avais l'impression que c'était une continuité de ce que je faisais avec Colette, donc c'était pas un risque énorme. Et je me préparais psychologiquement en me disant je ne contrôle plus tout. C'est vrai que avec le magasin Colette, je suivais un projet de A à Z, on va dire de la conception à la communication, lancement, présentation. Et là, je savais que je passais un petit peu de l'autre côté du mur. C'était intéressant de comprendre comment les différentes marques travaillaient. Et c'était apporter un regard extérieur, des idées et qu'elles en disposent avec leur fonctionnement. Mmh.
Et c'est tout aussi excitant, c'est pas frustrant de pas être hands-on dessus?
Non, c'est bien, j'aime bien avoir un recul, je comprends les possibilités, les limites, je suis ravie de voir des projets se concrétiser et non, pour le moment, c'est encore assez jeune, positif.
Ouais, ouais. Expliquez-nous par exemple le processus justement. Comment on a l'idée et prenez, je sais pas, un exemple peut-être qui est passé, que vous avez déjà suivi, et comment vous accompagnez le projet et combien de temps ça prend, etc.
Bah, ce que j'aime surtout, c'est que tous les projets sont différents les uns les autres. Et pour moi, c'est important de garder cette diversité. Il y a beaucoup de projets mode, mais je travaille aussi sur des projets liés à la beauté, au design. Donc c'est très varié ce que je peux apporter à ces marques. Bien, beaucoup de collaborations, mais aussi parfois je me sens chasseuse de tête ou parfois directrice artistique, parfois Pierre de faire des listes. Donc c'est très très varié. Mais dans les exemples récents, j'ai aidé Chitosé pour Sakai, le pop-up rue de Richelieu.
Comment c'est arrivé cette idée-là?
On avait beaucoup travaillé ensemble via Colette. Sur les derniers mois, en leur laissant l'étage avec Jardin Sakai. Donc, je pense que naturellement, Sakai s'est rendu compte qu'ils avaient peut-être pas assez de points de vente sur Paris et qu'ils avaient envie de faire ce pop-up qui va voyager de ville en ville. Et c'était les aider. Alors, étant basé sur Paris, ce que je pouvais apporter en expertise, mais aussi avec mon expérience. Et donc, ça a été aussi bien aider sur localiser le lieu, l'offre, les collaborations inédites pour l'espace, des idées d'événements. Encore une fois, j'aime bien quand c'est 360 degrés, quand c'est un petit peu tout.
Et ça prend combien de temps d'organiser un pop-up comme ça? Ça prend, c'est des projets de 6 mois, 1 an, 2 ans?
Non, 6 mois.
6 mois, ça suffit largement.
Ça suffit pas largement, c'est toujours bien d'avoir plus de temps, mais je pense que de nos jours, c'est difficile d'avoir plus de temps.
Et aujourd'hui, vous travaillez complètement toute seule?
Oui.
Pourquoi?
Bien, j'aime ça, c'est important pour moi d'être les idées, elles sont dans ma tête, les connaissances, les réseaux, les connexions que je peux faire, c'est tout dans ma tête, c'est beaucoup de mise en relation. Et c'était fantastique de travailler avec une équipe pour le magasin, mais aujourd'hui, je me sens plus libre en étant seule.
Ouais. Et comment vous définissez ce travail? C'est de la mise en relation.
Enfin, c'est un mix de tout. Ça peut être curateur, ça peut être un peu de direction artistique, ça peut être le mot consulting. En tout cas, c'est le plus simple, mais je trouve ça très un peu limité et c'est abstrait. Mais c'est un petit peu tout.
Ça serait quoi la voix
accompagner? J'aime bien l'idée d'accompagner des projets.
Ouais. Accompagnatrice.
Voilà.
Ce serait quoi la voie royale pour faire ce job-là? C'est un peu péjoratif de dire job, mais ce métier-là.
Je pense avoir une ouverture, une curiosité, à savoir ce qui se passe.
Il y a des gens qui font ça ou vous êtes unique au monde?
Non, je suis pas unique au monde, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes très spécialisées dans un domaine, design, mode, beauté. Et moi, je suis finalement pas spécialisée. C'est un petit peu à la surface. J'adore passer du temps à scroller, à chercher. Et il y a ce que je connais et tout ce que je ne connais pas que j'ai envie de découvrir. Donc, et ça s'arrête pas à un domaine. C'est tout domaine confondu autour de la création. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de personnes qui aiment se spécialiser dans un domaine et moi, c'est un petit peu...
Mais en fait, chaque univers se nourrissent les uns les autres, j'imagine.
Oui. Ça me fait penser un peu par rapport à la presse, à un news editor. C'est un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, tout domaine confondu.
Ouais. Alors vous qui au fait de tout...
J'essaye.
Non, mais dans la communication, je suis un peu obsédé par plein de sujets, et notamment la communication dans la mode. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années et comment vous voyez le futur?
Le rythme, évidemment. Tout va beaucoup trop vite. On est submergé d'informations et... tout va trop vite, je pense. Mmh. Et c'est arrivé aussi bien dans le retail, le besoin de renouveler, je pense, l'offre, mais évidemment dans la communication avec des supports comme Instagram où voilà, on scrolle. On a... mmh. Et le futur... je pense qu'il va falloir notre attention va forcément. On n'a pas besoin de toutes ces informations, on n'a pas besoin de tous ces produits. Donc, je pense qu'à un moment, on va se focaliser sur ce qui compte vraiment, ce qui a de la valeur pour soi, pour chacun. Mm-hmm. Moi-même, je le vois. Je suis très consommatrice d'informations, mais je pense que petit à petit, je deviens plus sélective parce que je peux pas.
Ouais, il y a trop.
Non, voilà.
Ouais. Et comment vous faites cette sélection? Comment on est sélectif?
Ça se fait, je pense, naturellement, mais on c'est centre moins. D'intérêt. C'est là où on est le plus inspiré et non pas relire la même information sous différentes formes, sur différents supports assez similaires. Il faut trouver sa vraie source, je pense.
Mais c'est quoi votre source, vous, principale? Vos principales sources?
Je vois cette pile de magazines dans mon bureau que j'ai pas encore lu et que je veux lire avant de m'en séparer. Ouais. Mais évidemment, Instagram est très important et je suis sans arrêt essayer de supprimer des comptes que je suis plutôt que d'en ajouter parce que, encore une fois, je suis consciente que c'est trop et que ça prend trop de temps. J'en ai besoin. C'est une source vraiment d'information, d'inspiration essentielle dans mon travail. Mais il faut que j'arrive à vraiment garder que ce qui m'apporte quelque chose. Mmh. Mais j'en suis pas encore là.
Et vous arrivez encore à être surpris?
Oui, heureusement. Oui.
Ouais. Il y a des choses qui vous surprennent encore, vachement. Oui. Et souvent, les designers que je rencontre, ils disent, on regarde plus la presse parce qu'on est, ça nous surprend plus ou parce que il y en a trop et on n'a plus le temps, en fait. Et Instagram a pris le pas.
Faut trouver la bonne presse. Heureusement qu'il reste des magazines fantastiques qui vont faire un vrai travail surprenant, innovant. Donc, il faut pas la, censurer, on peut pas généraliser, on peut pas. Je pense qu'il reste des magazines de qualité et qui apportent quelque chose de différent d'Instagram.
Et sur un autre thème que je veux aborder avec vous, même si bon là on va très vite quand même sur la communication, le retail versus le direct to customer et l'online. Comment vous voyez les choses? Je lisais dans un interview récemment, vous disiez qu'on n'avait plus besoin de magasins retail.
Multimarque.
Multimarque.
Bon, c'est sûr que le digital, pour moi, c'est fantastique. Je commande non-stop online. Même là, je passais une commande de chocolat alors que la chocolaterie, elle est à deux pas de moi pour faire des cadeaux. Mais voilà, il est 9h du matin, c'est pas encore ouvert. J'aurais plus qu'à faire un retrait en boutique et pas rentrer, attendre, payer. Je trouve que c'est dans ce monde où tout va très vite. Même si, évidemment, c'est reste un plaisir de rentrer dans un magasin, découvrir quelque chose qui n'est pas sur le site, avoir une discussion avec un vendeur, ça reste quand même tellement rare que le online, il faut que les marques le développent le plus possible, je pense. Donc les magasins des marques, je pense que ça reste aussi très important et surtout s'ils offrent des exclusivités qu'on trouve pas sur le site, des exclusivités pour chaque ville, pour chaque magasin, qui est une âme spéciale dans chaque magasin, qui devienne une destination et non pas un copier-coller de ce qu'on trouve de l'aéroport à Milan, Londres, New York. Et le multimarque, bien sûr qu'il y a toujours une place pour lui, mais je pense qu'il peut offrir un regard, une offre, un best-of de ce qu'on trouve ailleurs. Mais c'est tellement dur de rivaliser, je pense, avec les marques quand elles ont leur propre magasin, de par des choses aussi bêtes que la date de livraison, etc. Enfin, c'est ce qu'on a vécu. Peut-être que ça a changé, peut-être que ça va changer. Mais il y avait beaucoup de frustration.
Et, je crois sur les livraisons qui étaient souvent en retard.
Par rapport au magasin de la grande marque qui est à quelques mètres de chez nous. Alors, on peut se dire que notre clientèle n'allait pas chez eux, mais en même temps, ça nous limite un petit peu. Donc, je pense que évidemment, pour les jeunes marques, les jeunes créateurs qui n'ont pas encore les moyens d'avoir leur magasin physique, c'est intéressant d'avoir cette proposition dans un multimarque. Mais j'ai envie de lui dire quand même de pousser son propre online commerce, parce que dès qu'il va se faire connaître via les réseaux sociaux...
Les gens viennent à lui.
Voilà.
Et vous avez des best practices sur, sur l'online, des best practices, enfin des...
Des quoi?
Des best practices, des pratiques exemplaires sur la gestion de l'online, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, que vous trouvez qui sont surprenants, ou ils font les choses vachement bien, ou ils ont mis le standard?
Bah oui, je pense qu'on commande et qu'on reçoit le lendemain dans une belle boîte sa commande, moi je dis bravo, vraiment. Ça m'est arrivé récemment avec 24 Sèvres, vous allez me dire ils sont sur Paris, mais quand même. J'ai vraiment commandé à 4h de l'après-midi et reçu le lendemain à 10h. Donc j'étais bluffée. Mais oui, tous ces grands sites, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il y a une telle concurrence entre eux que tout dépend
du service,
du service en plus de leur offre. Donc non, ça reste, c'est pour ça que je ne commande plus qu'online. Ça reste toujours une meilleure expérience qu'en magasin.
Magasin, souvent, il n'y a pas la dispo.
C'est pas bien présenté. C'est pas... Les vendeurs n'ont pas forcément envie de s'occuper de vous, etc.
Mmh. Ouais.
C'est triste, mais c'est la réalité.
C'est la réalité. Il y a un grand sujet en ce moment quand même. On parle beaucoup de sustainability, de consciousness, d'inclusivity, de transparence. Tous ces mots qui sont... Il y a encore quelques mois, on n'en parlait pas trop, et j'ai l'impression que les marques regardaient ça de très très loin. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elles commencent à dire bah, il faut qu'on en parle, parce qu'en fait, tout le monde en parle et il faut qu'on prenne le sujet à bras le corps. C'est quoi les recommandations que vous feriez sur tous ces sujets-là?
Alors, étant un peu plus vieille, même si le sujet est de plus en plus grave, j'ai envie de dire que ce n'est pas nouveau. Il y a eu vraiment des périodes hyper green, écolo. Il y a plus de 10 ans, je me souviens très bien au magasin, c'était un sujet récurrent, qu'on nous proposait des produits et qu'on avait envie d'y participer, mais que souvent je disais, est-ce que ça ne peut pas être sustainable sans que ça se voit? Parce que tous les premiers produits qui apparaissaient, mais c'est quand même... Et ce qui me fait très peur, c'est que ça soit un effet de mode. Je ne pense pas que ça soit possible aujourd'hui, mais... En tout cas, ça a été un sujet depuis vraiment plus de 10 ans récurrent, et je suis tellement surprise que ça soit pas plus pris en compte par les marques, pas forcément parce que on en parle, mais naturellement parce que c'est leur responsabilité de faire attention à ce qui est la production et protéger notre planète. Donc c'est des sujets qui me touchent forcément, auxquels j'ai envie de participer, de soutenir, d'ouvrir les yeux. Mais je suis aussi très honnête avec moi-même, je ne suis pas un exemple
de best practice pour
voilà.
Le coup.
Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver, des petites étapes, mais évidemment, on est obligé pour les futures générations de ne pas faire n'importe quoi, c'est sûr.
Et sur les... Enfin, j'ai plusieurs questions, mais par exemple, j'interviewais récemment quelqu'un qui me disait, moi, mes clients, je les, alors, il a le luxe de choisir ses clients, mais il disait, moi, mes clients qui n'ont pas une démarche RSE, en tout cas engagée, s'ils n'ont pas fait un pas, je refuse de travailler avec eux.
Bah, tant mieux pour lui, je le comprends. Mais en tout cas, ça m'est arrivé de proposer à des clients, à moi, des projets autour de ça, et ils ont dit, peut-être plus tard. Et ça m'a surprise. Et j'essaie de leur montrer, attention, regardez ailleurs. Je pense que ça peut être très positif pour vous. Est-ce que ça va refléter? Enfin, regardez ailleurs, il n'y a pas tant que ça d'exemple. Ça reste très limité, ou ça dure 6 mois et après on n'en entend plus parler. Je pense que la situation est grave et qu'il faut faire quelque chose. Et ouais. Je ne sais pas encore par quelle
boule prendre.
Ouvrir les yeux.
Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des exemples récents ou de belles collaborations dans ce sens-là, ou de belles initiatives qui étaient très encourageantes?
Il y en a, mais je ne vais pas les citer parce que finalement, 6 mois après, ça a disparu. Alors que je pensais que ça deviendrait un label un peu permanent pour ce projet-là. Donc, j'ai peur que ça ait été un coup de communication et non pas quelque chose de sincère. Et en tout cas, il y a de plus en plus de marques, par contre, à défaut que ça soit pris en compte par des multimarques, par des supports, au moins, je crois qu'il y a de plus en plus de nouvelles marques qui prennent ça en compte. Donc forcément, ça va déteindre sur le réseau de distribution. Mais au dernier prix LVMH, c'était impressionnant le nombre de jeunes créateurs. C'était leur discours, c'était dès les premières présentation sustainable d'une façon ou d'une autre.
Mais est-ce qu'il faut le dire quand on est un jeune créateur? Ou est-ce que ça devrait pas être...
Aujourd'hui, je pense que oui, encore. On ne peut pas se faire le luxe de estimer que c'est soit naturel, normal. Je pense qu'aujourd'hui...
C'est un vrai argument de vente? De positionnement, en tout cas?
Je crois. Ouais. Je crois. J'espère que rapidement, ça sera plus nécessaire de le mentionner, que ça sera pris en compte. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore nécessaire de le préciser.
Ouais. Et justement, avec toute cette quantité d'offres qu'on a aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce que vous dites aux jeunes gens qui veulent créer une marque?
D'apporter quelque chose, de vraiment de se démarquer, de pas juste croire que en faisant rouge au lieu de vert, ça va faire la différence. Je pense qu'il faut avoir
un vrai propos.
Ouais.
Je reviens sur la partie productivité personnelle. Quand on travaille toute seule, évidemment, vous êtes obligé de choisir vos projets. Comment on choisit ces projets? On peut pas tout faire.
Alors, j'ai un gros défaut, c'est que je suis toujours intéressée par tout et toujours l'impression que je peux aider, me rendre utile sur des sujets très différents. Mais j'ai dit non quand vraiment je me sentais trop loin du projet, quand c'est dans un pays que je connais pas du tout, quand c'est une culture que je connais pas du tout. Mais à peine je sens que oui, je peux apporter une connexion, quelque chose qui va booster l'histoire, j'ai tendance à le faire. Et puis on sait pas trop à l'avance combien de temps va prendre chaque projet. Il y en a certains, je pensais que ça me prendrait plus de temps, c'était plus rapide, et d'autres c'est l'inverse. Donc j'aime surfer sur des sujets très différents, et comme je le faisais avant avec le magasin, j'ai des journées où je passe d'un sujet à un autre très extrême, et c'est ma façon de travailler.
Et ça, c'est une gymnastique qu'on développe, parce que c'est pas inné.
C'est ma façon de travailler. Ce que j'aimerais essayer de développer, c'est l'inverse, prendre un projet par un projet, me concentrer que sur celui-ci, avoir du temps de recherche, de développement, et je pense que de fait, ma façon de travailler avant, j'y arrive pas trop, parce que voilà, je suis curieuse, tout m'intéresse, et j'ai toujours l'impression que je peux le faire. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi que je travaille, et j'aimerais vivre l'expérience de me dire, ok, pendant telle période, je ne fais que ça. Mais je suis un peu boulimique.
Vous pensez que vous seriez plus productive, vous iriez plus en profondeur en tout cas?
Je serais curieuse de voir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais en profondeur quand même. J'ai une vraie responsabilité par rapport aux personnes qui me font confiance, et j'ai envie de les surprendre dans le bon sens du terme, et de vraiment leur apporter quelque chose. Donc forcément, ça se fait pas tout seul. Je passe beaucoup de temps sur chaque projet. Mais j'aimerais voir ce que ça fait de se concentrer encore plus.
C'est quoi vos outils, justement, quand vous travaillez sur un projet? Vous faites des moodboards? Vous avez un Pinterest? Comment
pas
vous travaillez?
Pas vraiment, non. Ouais. Non. C'est pas si pro. C'est passe beaucoup par l'oral, finalement. Et oui, j'essaie de mettre sur papier les idées, les exprimer. Mais non, je pense que c'est très simple, parce que c'est des évidences. J'essaie de proposer des projets qui soient très logique, très cohérent avec l'histoire de la marque, ses valeurs. C'est ça que j'aime, me plonger un petit peu dans chaque identité et lui apporter des projets qui soient vraiment naturels. Donc finalement, pas besoin de faire des milliards de moodboards, ça doit passer tout seul, entre guillemets.
Ouais. Et puis vous, c'est quand même c'est l'idée, et après le travail concret, c'est quand même les marques qui mettent les qui lèvent les manches, enfin qui
soient et le concrétiser. Il y a l'idée, effectivement, ouais. Parfois c'est un fantasme absolu, et il faut arriver à trouver la bonne personne chez l'énorme marque où on connaît pas forcément, qui va comprendre le projet et après le suivre jusqu'au bout. Ouais.
Et qu'est-ce qui fait qu'une collaboration fonctionne ou pas?
Comme je disais, qu'elle ait du sens, même si ça peut être des extrêmes inattendus, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui donne du sens. Et bon, c'est très... pour moi, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Mais après, évidemment, même une collaboration un peu forcée, peut-être que les acteurs vous diront « mais si, parce que ceci ou cela ». Donc après, pour moi... Il y a du sens, il y a un partage, il y a une connexion par des savoir-faire qui s'apportent quelque chose, par des sujets qui rapprochent. Même si c'est des choses complètement inattendues, il devrait y avoir une petite
Et par exemple, vous, dans un article récemment, je lisais que vous parliez de Palace et de Ralph Lauren. En quoi c'est une super collaboration?
Ben bon, c'est des extrêmes, hein, parce que voilà, la jeune marque Street Skate de Londres et la marque américaine historique, légendaire. Mais le produit, si on le regarde, d'avoir le petit ours Ralph Lauren qui fait du skate, la chemise. On y retrouve les codes des deux maisons. On reconnaît les deux maisons. Il n'y en a pas une qui dépasse l'autre. Je trouve que quand on regarde les produits, il y a les deux univers qui se rencontrent à égale mesure. Mmh. Pour moi, c'est fort. Virgil avec Nike, c'est pareil. On reconnaît aussi bien les codes de Virgil. Ils ont laissé faire des choses incroyables autour du retournement de chaussures ou je sais pas, le détail du lacet, etc. Et ça reste Nike. Donc, c'est quand il y a un équilibre entre les deux forces.
Et Virgil Evian ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Je trouve super qu'il ait réussi à leur faire, en plus de la bouteille, la gourde, je sais pas comment on appelle ça, la bouteille en verre, pour une marque d'eau où on consomme des bouteilles en plastique et bouteilles en verre. Je trouve ça fort qu'il ait réussi à faire ce Rainbow Inside. Voilà.
Très bien. Et vous, créer une marque, ça a été un moment, quelque chose qui vous est passé dans la tête?
Jamais. J'adore apporter des idées, des déclinaisons à des marques, leur montrer des choses qu'ils pourraient faire. Mais non, j'ai pas du tout. J'ai trop de respect pour les personnes qui arrivent à créer des choses pour me dire tiens, je vais le lancer.
Et dans vos outils du quotidien, tout à l'heure, on parlait un peu des outils, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. C'est quoi vos outils du quotidien pour être très très forte? En productivité.
Je pense à avoir du recul. Je suis pas aussi forte que j'aimerais. Avoir du recul cette ouverture surtout. Je pense que je peux trouver de l'inspiration dans un film, dans un concert, dans la rue. Bon, évidemment, Instagram et online, Google, des choses comme ça. Mais bon, je mentirais en disant je vais en bibliothèque, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire parce que il y a des choses dans le passé ou des choses qu'on... Mais je regarde énormément de livres, j'écoute, je suis curieuse. Donc, c'est des rapprochements, d'essayer de... C'est pas forcément aussi le truc du moment. Il peut y avoir quelque chose qu'on a un peu oublié, mais qu'on peut faire revenir. Je pense que c'est une ouverture et... une curiosité qui me permettent, me donnent les outils pour faire les propositions que je fais aujourd'hui.
Et vous répondez à tous vos emails?
J'essaie, non. Alors là, c'était vraiment le défi avec ma nouvelle aventure, parce que pour Colette, j'en ai encore des centaines de milliers qui sont restés non ouverts. Et je disais toujours, je les traiterai quand je serai à la retraite, mais... Je ne vais plus le dire aujourd'hui. Et avec aujourd'hui, Justin dit oui, je suis à jour.
Et j'ai l'impression que vous voulez pas forcément être mise en avant systématiquement dans les collaborations que vous faites naître. Pourquoi?
Parce que j'ai aucune raison d'être mise en avant. Je trouve ça plus intéressant pour les gars. S'il y a déjà deux parties, je trouve que c'est déjà suffisant. Pas la peine qu'il y en ait une troisième. Donc c'est vrai que j'essaye pas du tout. Beaucoup de personnes me disaient, mais développe, enfin avec Just an Idea, pourquoi pas faire un sac? Pourquoi pas faire? Non. Et mon site n'est qu'une page de contact. Et je suis pas là pour développer une marque ou un label. Je suis là pour aider les autres. Donc j'ai pas d'ambition de développer. Ma propre image ou de me mettre en avant. J'aime être une petite souris dans l'ombre qui aide à se développer d'autres choses.
D'accord. Qu'est-ce que vous feriez différemment dans toute votre épopée?
Comme je disais, peut-être être moins à la surface de beaucoup de sujets et essayer de passer du temps sur m'approfondir sur un sujet par un sujet. Peut-être que très vite, je me rendrai compte que c'est pas du tout possible avec ma façon de travailler, que j'ai besoin d'excitation, j'ai besoin de pression, j'ai besoin de rush aussi, mais peut-être me dire, tiens, je me concentre sur un livre, une expo, voilà.
Vous parliez aussi de... Ça, c'était votre deuxième vie. Enfin, j'ai lu ça. La première vie, ça aurait été Colette. Justin Hiddy, la deuxième. Et la troisième, ça serait quoi, vous pensez?
Ouh là là! j'y suis pas. Je sais pas si j'en aurai grand troisième. Je suis plus toute jeune, donc avec Justin Hallyday, le format est tellement large que je peux faire des choses très différentes les unes des autres. C'est ce que je disais de Colette, mais on avait quand même une enveloppe physique qui nous limitait. Et aujourd'hui, je pense que je peux, dans cette nouvelle vie, aussi bien aider, comme je fais aujourd'hui, des collaborations, des pop-up, de la stratégie, mais aussi me dédier à un curating de, pour une grosse installation. Donc, c'est des projets qui m'intéressent à développer. Je pense que je peux le faire avec cette structure-là.
Qu'est-ce qui vous...
La troisième vie, ça sera quand je, d'être grand-mère.
Ouais. Ça vient plus vite qu'on l'imagine. Non. Qu'est-ce qui vous drive, ou qu'est-ce qui vous fait que vous vous levez tous les matins avec une patate d'enfer?
Bon, l'excitation de développer des projets intéressants, de travailler avec des personnes, j'ai toutes ces marques qui m'inspirent, se renouveler, le fait que chaque journée est très différente les unes l'une de l'autre. Toujours cet appétit de la découverte, de la surprise.
C'est assez simple.
Oui.
D'après vous, c'est quoi le futur de la mode? C'est hyper large comme question.
C'est vous? Je suis curieuse de voir ce que vous faites à côté de tous ces podcasts.
C'est sympa. Non, mais dans le sens où j'ai l'impression que... Enfin, moi, le sentiment que j'ai, c'est que cette surconsommation, au bout d'un moment, elle va se calmer. Les gens vont arrêter de surconsommer. Et je pense que les modèles économiques vont devoir se renouveler. Et vous, qu'est-ce que vous sentez par rapport à ça?
Non, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que les projets authentiques, sincères, qui apportent quelque chose et qui sont légitimes, seront ceux qui resteront. C'est compliqué, il y a de la place pour tout et heureusement qu'il n'y a pas non plus une uniformité dans les goûts, dans les désirs d'achat. Et il faut qu'on garde une grande diversité, mais effectivement un frein à la surconsommation, ça serait bien entrepris par les acteurs eux-mêmes de ce développement, parce que bon, faut dire, on le constate, enfin tout ne peut pas passer, que ça soit en information, en produit, tout. Faut pas qu'il y ait de gâchis. Donc je pense que il va y avoir un épurement, un affinement de l'offre dans toutes ces expressions. Mais faut pas, ça veut pas dire une uniformité, ça veut pas dire une offre unique. Donc
il y aura toujours de la place pour tout le monde, mais différemment, quoi. Ouais. Ok, très bien. Et ben, malheureusement, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Dernière question quand même pour clôturer, c'est qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Alors, je pense à une de vos auditrices qui m'a parlé de vous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewée, c'est Maroussia de Andrea Cruz.
Ah oui. Non, je ne l'ai pas encore interviewée.
Non, parce qu'elle disait, j'apprends plein de choses, mais je suis sûre qu'on apprendrait plein de choses d'elle aussi, parce qu'elle a toujours eu une super énergie, une super... team autour d'elle et des projets innovants.
Très bien, et ben merci. À bientôt.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre-dans-la-mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.